Le XXe siècle a sans doute été le siècle de l'avènement de la vie privée. Peut-être le XXIe sera-t-il celui du spectacle de la vie privée. Si l'ancien ministre de l'Éducation nationale et philosophe Luc Ferry ne le prédit pas, il jette un œil perspicace sur le siècle passé et y voit le lieu d'émergence de la famille moderne et du mariage d'amour. « Famille, je vous aime » est le titre de son dernier livre, qu'il a présenté en conférence à Monaco le 31 mars à l'invitation de la Fondation Prince-Pierre. Une réflexion qui semble aller à l'encontre de la fameuse diatribe d'André Gide qui proclamait haut et fort « Famille, je vous hais ». Noël Fantoni a demandé à Luc Ferry s'il n'aimait pas André Gide.
Je l'ai mal connu pour tout vous dire, mais c'est pas ça. Quand André Gide dit « famille, je vous hais », il parle d'une famille que je déteste aussi, qui est la famille bourgeoise. Donc en vérité, nous sommes tout à fait d'accord. Et réciproquement, je pense que si Gide avait connu la famille dont je parle aujourd'hui, c'est-à-dire la famille fondée sur le libre choix et le mariage d'amour, il l'aurait probablement aimé davantage que celle dont il parle. Encore une fois, il parle d'une famille bourgeoise dont il faut rappeler celle qu'on idéalise aujourd'hui, surtout d'ailleurs à droite, c'est une famille, on idéalise, pourquoi ? Parce qu'on ne divorçait pas à l'époque. En gros, ça ne se faisait pas. C'était très rare le divorce, c'était très mal vu. Donc sur le papier, c'est une famille dont les gens pensent à tort qu'elle allait beaucoup mieux que la famille d'aujourd'hui où on divorce beaucoup, puisque de fait, 50% des mariages dans les grandes villes européennes se terminent par un divorce. Et donc aujourd'hui, on dit, ah voilà, tout fout le camp, tout va mal, et on pense que la famille bourgeoise, celle que Gide déteste, allait mieux que notre famille contemporaine dans laquelle on divorce. Ça n'est pas vrai. Il faut rappeler les choses, c'est que, en historien si vous voulez, c'est que la famille bourgeoise, c'est une famille d'abord qui est fondée en grande partie sur une institution ou à côté d'une institution qui est le bordel. C'est une famille dans laquelle la plupart du temps les femmes sacrifient non seulement leur vie professionnelle, je veux dire, mais aussi leur vie privée à des maris qui très rapidement, très souvent en tout cas, les trompent à pied, à cheval et en voiture. Regardez par exemple nos présidents de la République, ils ne divorçaient pas jusqu'à une date récente, mais on sait très bien que leur famille n'était pas forcément des modèles, enfin c'est le moins qu'on puisse dire. Non, tout le monde sait toutes les anecdotes qu'on raconte, et même pas les anecdotes. On voit bien qu'à la mort de François Mitterrand, il y a sa maîtresse, sa fille adultérine, enfin bon, tout ça n'était pas forcément formidable. On sait que sa femme qui vivait plus ensemble depuis des décennies, enfin bon, tout ça est connu et sur la place publique, je ne commets pas d'indiscrétion. Et donc cette famille bourgeoise qu'on idéalise, elle était en vérité pas si formidable que ça.
Mais en fait, de quelle famille parlez-vous? Quel est votre idéal? C'est la famille biparentale, c'est la famille monoparentale, c'est la famille biparentale homosexuelle?
Le tout, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir sur quoi elle est fondée, la famille. Au Moyen-Âge, quand on regarde l'histoire de la famille, ce que nous apprennent les historiens, la famille, elle est fondée sur deux piliers qui sont le lignage, c'est-à-dire la transmission du nom et la transmission du patrimoine à l'aîné, et puis l'économie, puisque c'est une robe rurale et il faut des bras pour faire vivre la ferme. Ce qui va se passer progressivement au fil de l'histoire moderne, depuis le XVIIe siècle, et c'est très progressif, c'est que peu à peu, on va inventer le mariage d'amour. Comment on l'invente? On l'invente en même temps que le salariat. Le salariat, il va avoir pour effet d'arracher les individus à la communauté paysanne et religieuse qui s'appelle le village. Les individus vont, comme on dit, monter travailler à la ville. Hein, et ils vont donc s'arracher à l'emprise d'un village où ils sont mariés de force. Au Moyen-Âge, on ne se marie pas, on est marié même pas par les parents, mais par le village tout entier. Et donc ces individus qui vont avoir un salaire, qui vont monter, encore une fois, travailler à la ville, ils vont avoir une autonomie financière grâce au salaire, ce qui n'existait pas dans l'Europe du Moyen-Âge, c'est tout nouveau. C'est quoi, 17e, 18e siècle, 19e siècle surtout. Et donc, du coup, ils vont avoir une autonomie financière et une autonomie par rapport au village d'origine qui va leur permettre de dire, mais au fond, je n'accepte plus d'être marié de force, je veux me marier. Et donc, me marier par choix, me marier librement et donc, si possible, avec quelqu'un que j'aime. Et c'est comme ça qu'on va inventer le mariage d'amour. Et donc, progressivement, le mariage d'amour va devenir la règle de nos unions, la règle de la famille, ce qui fait que, et c'est pas du tout une plaisanterie, je le dis sans aucune ironie, même les prêtres et les homosexuels vont aujourd'hui vouloir se marier, parce que la logique du mariage moderne, de la famille moderne, c'est la logique de l'amour, et c'est pour ça qu'on va inventer le divorce, parce que si vous fondez le mariage sur l'amour, évidemment vous inventez le divorce, quand les sentiments ne sont plus là, alors on se sépare, mais quelquefois, je le dis un peu par provocation, mais c'est pour faire réfléchir les gens, et aussi parce que c'est profondément vrai, quelquefois, même les enfants seront moins malheureux dans un divorce réussi que dans un mariage raté.
Et est-ce que dans nos sociétés modernes, les conditions de la durabilité d'un mariage, est-ce que les conditions de succès de la famille sont toujours réunies ?
C'est-à-dire qu'elles sont tout autant réunies qu'avant. Simplement, avant, ça ne se faisait pas de divorcer. Donc les gens, même malheureux, et même se trompant les uns les autres, restaient ensemble, parce que c'était, la morale bourgeoise qui l'exigeait. Un président de la République, un notable en particulier, ça ne divorçait pas. Et même dans les familles de pas notables du tout, c'était quand même très mal vu. Une femme divorcée, oh là là, quelle catastrophe. Souvenez-vous aussi de ce qu'on disait des filles mères, même encore, je me souviens, quand j'étais au lycée dans mon enfance, ben c'était l'horreur, c'était la catastrophe, c'était le désastre dans les familles. Bon. Et donc, c'est ça qui a changé fondamentalement, si vous voulez. Alors, vous me demandez si les conditions d'un mariage réussi, à mon avis, elles ne sont pas très différentes, de ce qui se passait dans mon enfance ou dans les temps passés. Le problème, c'est que très souvent, et même quasi inévitablement, les jeunes, quand ils se marient, se trompent. De cible, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que d'abord, on confond la sexualité et l'amour. C'est inévitable, si vous voulez. Quand vous avez 18 ans, la pression de la vie sexuelle est si grande, c'est si fort, c'est si bouleversant. C'est une jeune fille qui, pour la première fois, connaît une vie sexuelle réussie, c'est tellement puissant qu'elle va forcément tomber amoureuse du garçon qui lui donne ça ou avec lequel ça se passe bien. Et donc, vous avez presque inévitablement une erreur de base à l'origine des premiers amours, c'est que déjà on va confondre l'affectivité et la sexualité, on va confondre l'amour et la sexualité, on va confondre mille choses, on ne sait pas non plus qu'on reproduit des schémas parentaux, qu'on va essayer de retrouver sa mère ou retrouver son frère ou son père ou que sais-je, bon. Et donc on va être victime de beaucoup d'illusions inévitablement. Presque à coup sûr, un mariage à 20 ans, c'est un divorce à 35. C'est quasi inévitable. Et donc, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, si vous voulez, c'est justement qu'on va divorcer quand ça va rater, quand l'échec est patent, eh bien, on va divorcer. Et très souvent, le deuxième mariage sera plus réussi que le premier, ou le troisième plus réussi que le second. Je ne souhaite pas à tout le monde d'en avoir 5 ou 6, mais c'est vrai qu'on fait moins de bêtises quand on se marie à 40 ans que quand on se marie à 20, c'est évident.
La famille, c'est un horizon indépassable ou on peut la remplacer par autre chose ?
Non, c'est le seul lieu de solidarité, comme c'est le lieu de l'amour. Une fois que le mariage d'amour l'a emporté sur les autres formes de mariage. Hein. Vous savez, moi je vous conseille une chose, lisez la petite nouvelle de Maupassant qui s'appelle « Jadis ». Elle est géniale parce que ça vous prendra 20 minutes, une demi-heure, et c'est une petite, merveilleuse petite nouvelle sur la différence entre le mariage ancien, le mariage du Moyen-Âge, qui n'a rien à voir avec l'amour, et le mariage d'aujourd'hui qui est fondé sur l'amour. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fascinant de voir comment, en effet, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans cette logique du mariage d'amour. Au fond, aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus de mariage autre que des mariages d'amour. Il y a des mariages forcés, mais ce n'est pas des mariages européens, y compris au cœur même. Par exemple, je voyais un reportage à la télévision l'autre jour, on estimait à 4000 le nombre des mariages en Angleterre qui sont des mariages forcés. Mais ce sont des mariages dans des communautés qui ne sont pas des communautés d'origine européenne. Dans l'Europe moderne, si je puis dire, le mariage d'amour l'a emporté sur toutes les formes, les autres formes d'union, et ça a des effets qui sont... En effet, bon, négatif sur la prolifération des divorces, hein, je ne fais pas l'apologie du divorce, mais en même temps, ça a des effets aussi formidablement positifs, notamment sur un point qui est à travers l'amour des enfants. Petite parenthèse, au Moyen-Âge, la perte d'un enfant, c'était moins grave que la perte d'un cheval, pour dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, le deuil d'un enfant, c'est la chose la pire qui soit au monde. Bon, eh bien, à travers cet amour des enfants, on va complètement bouleverser aussi la donne politique, puisqu'on va poser la question politique en termes tout à fait nouveaux, en termes de génération future. Ça apparaît dans l'écologie, mais pas seulement. Vous voyez le problème de la dette publique, par exemple, ou le problème du choc des civilisations. c'est le problème de savoir quel monde on veut laisser à nos enfants. Et donc, cette histoire du mariage d'amour, elle va avoir des effets, je crois, extrêmement positifs, extrêmement intéressants en tout cas, extrêmement profonds sur des secteurs de la vie humaine, aussi lointains de la vie privée que, par exemple, la vie politique.
Mariage arrangé, mariage d'amour, quel est le troisième terme ? Qu'est-ce que nous réserve l'avenir ? Que peut nous réserver l'avenir ? Ça peut être autre chose ?
Non, il n'y a pas de troisième terme. Je pense qu'on va vers un horizon indépassable, qui est l'horizon de cette famille fondée sur l'amour, aussi parce que c'est le seul lieu de solidarité réelle. Hein, quand vous avez un vrai pépin, qui vous aide ? Ou qui est avec vous ? Ben, votre famille. Hein, c'est que, vous pouvez avoir quelques amis, mais à la limite, les amis, ça fait partie, si je puis dire, au sens large de la famille. La plupart du temps, c'est lié. Et donc, le seul vrai lieu de solidarité, c'est la famille aujourd'hui. Il y a bien sûr la solidarité de l'État-providence. Vous avez une carte vitale, vous payez pas quand vous allez à l'hôpital, très bien. Mais ça, c'est une solidarité, si je puis dire, abstraite. Elle n'est pas affective, elle n'est pas charnelle. Ça, c'est la solidarité, si je puis dire, financière. Hein. Vous payez pas le médecin, vous payez pas l'hôpital, très bien. Mais et vous payez pas l'école, etc. Mais ça, c'est pas une solidarité affective. La seule solidarité affective que nous connaissions aujourd'hui, c'est la solidarité familiale, au sens large, avec les amis, avec tous ceux qu'on aime. Et cette solidarité-là, elle est complètement irremplaçable. Et donc, je pense qu'en effet, la famille d'amour, je dirais, c'est-à-dire la famille fondée sur l'amour, c'est l'horizon indépassable de l'humanisme moderne. Alors, on peut imaginer des formes de vie anti-humanistes. Il y a des sociétés qui, aujourd'hui, ne pratiquent pas du tout le mariage d'amour. Même, d'ailleurs, l'immense majorité du monde vit sous un autre régime, mais je pense que c'est pas l'idéal, et je pense qu'au contraire, le modèle européen de ce point de vue-là est un modèle, bien sûr, il pose des problèmes, je dis pas le contraire, le divorce, mais c'est un modèle quand même qui est formidablement attrayant et qui est très réussi, contrairement à ce qu'on dit.
Vous êtes marié vous-même ?
Oui, bien sûr, oui. Enfin, bien sûr, non, c'est pas. Je dis bien sûr, c'est pas évident. Mais c'est pas tellement quand je dis mariage, je parle de l'union en fait, parce que des gens qui ne sont pas mariés peuvent parfaitement vivre comme des gens mariés. Je ne sais pas la question d'être passé devant le maire ou le curé, c'est pas ça. Mais en revanche, tous les couples que je connais aujourd'hui sont des couples qui sont fondés sur l'amour. Hein, c'est ça l'idée. Je ne connais plus de mariage de raison. Ça n'existe plus. Dans mon enfance, ça existait encore. Hein, on se mariait, bon bah, il fallait bien se marier, quoi. Mais si possible, on s'aimait un peu au début. Mais enfin, c'était pas l'essentiel. Et au Moyen Âge, c'était pas du tout l'essentiel. C'était pas du tout la question. On se mariait, c'est complètement indépendant. D'ailleurs, on se mariait pas, on était marié et complètement indépendamment de l'amour. Et encore aujourd'hui, quand je parlais des 4000 mariages arrangés, ce sont des mariages en Angleterre, mais je pense que ça doit être à peu près le même chiffre en France. Ce sont des mariages qui encore aujourd'hui sont traditionnels au sens qu'ils n'ont aucun rapport avec l'amour. Bah, c'est pas l'idéal. Et d'ailleurs, je connais pas une seule femme qui voudrait être marié de force aujourd'hui. Si vous en connaissez, montrez-la moi, mais j'en connais pas.
Donc c'est une théorie à l'épreuve des faits.
Oui, c'est ça. C'est pas une théorie, c'est simplement une observation de la réalité, de l'évolution de nos sociétés. Nous avons évolué vers le mariage d'amour, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les homosexuels, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux, un certain nombre d'organisations, revendiquent le droit au mariage avec un argument qui est très fort, hein, qui consiste à dire vous nous avez autorisé la sexualité. Hein, la sexualité homosexuelle n'est plus criminalisée aujourd'hui comme elle l'était encore, souvenez-vous, dans les années 60, c'était encore un crime. Hein. Eh bien, elle n'est plus criminalisée. Vous nous permettez la sexualité, mais vous nous refusez l'amour. Et donc, ils disent, mais puisque, au fond, le fondement du mariage, c'est devenu l'amour, pourquoi pas le mariage homosexuel ? Et donc, pratiquement la moitié des pays d'Europe ont autorisé le mariage homosexuel. Et je suis convaincu qu'on y viendra en France, quoi qu'on en pense. Hein. Je ne porte pas de jugement de valeur, parce que la logique du mariage d'amour l'emporte sur toutes les autres, finalement.